Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous. Si je vous dis U18, à quoi pensez-vous? Peut-être à un numéro de ligne de transport, peut-être à un code secret pour couler un navire, peut-être à un groupe de rock. Non, 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 vous n'y êtes pas. U18 en allemand, c'est un tout petit mot qui signifie « unter 18 », soit moins de 18 ans, et dans un contexte électoral, cela désigne les élections qui sont organisées dans toute l'Allemagne, spécialement pour les enfants et les adolescents, qui n'ont certes pas encore officiellement le droit de vote, mais qui ont tout de même des choses à dire. En deuxième partie, direction Berlin pour une visite du Bundestag, la chambre basse du Parlement, qui jouera dimanche prochain aux chaises musicales. Un jeu pour les enfants, certes, mais puisqu'on leur enseigne à eux comment voter comme des adultes, on peut bien réapprendre aux députés à tourner autour de leur siège pendant la durée d'une élection. C'est Constance Venkotze au micro, bienvenue à tous.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce.
La chancelière Angela Merkel est trop cool. Par contre, le FDP, le parti avec qui elle gouverne, est moins connu. Vendredi dernier, les élections U18 ont eu lieu. Des élections organisées spécialement pour les enfants et les adolescents et qui se déroulent juste avant les législatives officielles. Les résultats de ce vote reflètent les intentions de vote actuelles des adultes. Nette victoire des conservateurs, plus de 27% des enfants et des adolescents ont donné leur voix au parti d'Angela Merkel, la CDU. Les libéraux du FDP arrivent sous la barre symbolique des 5%. Les Verts décrochent la troisième place et les sociaux-démocrates arrivent en deuxième position, au grand désarroi d'Eva Högel, députée du SPD.
C'est très étonnant. Il semble que la chancelière soit également très populaire chez les jeunes, tellement populaire qu'il nous est difficile de la contrecarrer.
Un jour de vote, des estimations, une émission spéciale de vrais députés qui commentent les résultats, mais aussi des articles dans la presse, des interviews à la radio et sur les chaînes de télévision locales. L'initiative U18 est devenue grande, raconte son fondateur Markus Lehmann. C'est en 1995, alors que la ville de Berlin renouvelait son parlement et qu'il travaillait lui-même avec des jeunes, que l'idée d'organiser des élections pour les plus jeunes a commencé à germer.
À l'époque, je travaillais dans un centre de loisirs pour la jeunesse. J'ai remarqué que les enfants et les adolescents entendaient sans cesse parler d'élections, à la télévision, à la radio, à travers leurs parents. Et je me suis dit qu'il fallait organiser les élections différemment, qu'il fallait les rendre plus vivantes, plus intéressantes, bref, en faire quelque chose d'amusant. J'ai consulté tous les programmes, lu beaucoup de journaux, et après, je me suis lancé, j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai trouvé des partenaires. Voilà en gros comment toute l'histoire a commencé.
Und damit ist eigentlich die Idee von U18 entstanden.
Cette année, plus de 170 000 enfants et adolescents se sont rendus aux urnes dans 1500 bureaux de vote répartis à travers le pays. Un record qui démonte le cliché selon lequel la politique, c'est une affaire de grands. Pour Niklas Kuck, cela devient une affaire pour tout le monde à partir du moment où on en parle autrement. Il travaille pour l'initiative U18 à Berlin et cette année, en amont des élections, il a animé plusieurs débats dans les écoles entre des représentants des différents partis politiques et des élèves.
Ein großer Fehler, den wir auch machen in der politischen Bildung.
Lorsque l'on forme des jeunes à la politique, on oublie trop souvent d'être concret, de relier les concepts politiques aux réalités des enfants et des ados. Quand on leur demande « Est-ce que tu t'intéresses à la politique ?», la réponse spontanée sera non. Mais si on demande « Est-ce que tu aimerais qu'on construise un terrain de jeu près de chez toi ?» Est-ce que tu penses que les enfants handicapés dans ta classe sont défavorisés? Là, ils seront intéressés. Quand on devient concret, on obtient des réponses.
Entre-temps, les élections U18 sont devenues l'un des projets éducatifs les plus importants en Allemagne. Les écoles et les associations de jeunesse prennent le relais pour organiser diverses manifestations au cours desquelles les élèves sont amenés à s'impliquer et à faire des choix. Des cours sont dispensés pour apprendre de manière ludique comment fonctionne le système électoral allemand, quels sont les différents partis et ce qu'ils défendent. Et l'objectif de tout cela reste le même qu'au moment du lancement du projet, éveiller le sens critique des jeunes et leur faire prendre conscience de ce qu'est une démocratie et ce qu'elle permet de faire. Mais il n'y a pas que ça. Pour Markus Lehmann, les hommes et les femmes politiques profitent eux aussi de ce projet.
Au début, quand on a demandé aux partis de concevoir des programmes qui seraient aussi compréhensibles pour les jeunes, ils ont eu du mal. C'était presque impossible d'obtenir des phrases simples et claires. Maintenant, les partis nous répondent beaucoup plus vite et ils ont presque tous un programme adapté pour les enfants. Ils nous sollicitent même pour pouvoir participer à des débats, surtout au niveau local. Ils aiment bien ça et surtout, ils ont compris que ces jeunes qui ne votent pas encore aujourd'hui sont les électeurs de demain.
Face au succès du projet, les responsables des élections U18 pensent désormais à exporter leur concept au-delà des frontières allemandes pour les élections européennes de 2014, sachant qu'au niveau de l'Union européenne, justement, il existe déjà un Parlement des jeunes. Et peut-être que chez vous aussi, chers auditeurs, il existe des initiatives de ce genre pour encourager la participation des jeunes à la politique. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un Parlement africain de la jeunesse. N'hésitez pas à nous écrire pour témoigner. Notre adresse, c'est celle-ci.
Écrivez-nous à français@dw.de.
Les élections fédérales législatives pour les U18, les Uber 18, les plus de 18 ans, elles ont lieu, elles, ce dimanche. Les Allemands sont appelés à élire les députés de la chambre basse du Parlement, le Bundestag, un bâtiment situé au cœur de Berlin et qui conserve en lui les traces des grandes époques historiques qu'a traversé l'Allemagne moderne. Le Bundestag d'aujourd'hui, c'est Norman Foster qui l'a construit à partir de 1995. L'architecte anglais a réussi le pari de conserver les bases de l'ancien bâtiment parlementaire, le Reichstag, tout en le modernisant. Le symbole le plus fort étant sans doute l'énorme coupole transparente qui trône sur Berlin et que vous avez peut-être déjà aperçu sur Internet ou à la télévision. À quelques jours du vote, visite dans l'antre du pouvoir allemand avec notre correspondante à Berlin, Audrey Parmentier.
Zur ersten Sitzung des Deutschen Bundestages im umgebauten Reichstagsgebäude in Berlin begrüße ich Sie alle sehr, sehr herzlich.
Le 19 avril 1999, Wolfgang Thierse, alors président du Bundestag, accueille les députés dans le bâtiment où ils vont désormais siéger. Un bâtiment à l'histoire mouvementée, comme le rappelle un panneau explicatif à l'entrée. Décryptage avec Ernst Burgbauer, député du FDP, le parti libéral qui fait partie de l'actuelle coalition au pouvoir.
Bon, là, c'était le premier bâtiment de l'architecte Paul Vallon de 1884 jusqu'à 1894. Après, il faut savoir que le Reichstag sous Hitler n'a jamais siégé ici. Mais c'était quand même le symbole et comme ça, c'était détruit vraiment en 1945. Et c'était reconstruit un peu. Bon, il y avait des expositions, il y avait aussi un peu une salle plein air, mais le Parlement n'avait pas vraiment le droit de siéger ici. Et après la réunification et la décision d'aller à Berlin, c'était vraiment reconstruit par l'architecte anglais, Sir Norman Foster. Il a gardé toutes les faces du Reichstag. On voit par exemple les écritures quand les soldats russes sont venus. Ils ont beaucoup fait des graffitis. On le voit toujours. Et aujourd'hui, on a de l'extérieur vraiment le bâtiment historique et à l'intérieur un parlement tout à fait moderne.
Et donc dans ce bâtiment très moderne, donc c'est là où siègent les députés?
C'est là où siègent les députés. Bon, il y a bien sûr la salle plénière, c'est le centre du bâtiment. Après, il y a des salles pour les groupes. Il y a le président du Parlement siège ici. Et il y a un tas de bureaux et il y a aussi, ce qui est peut-être unique, tout un étage pour les visiteurs. Ce sont des milliers par jour qui rentrent là, qui regardent le Parlement. Ils voient dans la salle plénière d'en haut. C'est vraiment très lumineux et surtout le centre de tout, c'est la fameuse coupole que l'architecte ne voulait pas faire d'origine. Le vieux bâtiment avait une coupole, lui ne voulait pas. On a décidé de le faire quand même et c'est aujourd'hui vraiment la grande attraction. On a une belle vue sur Berlin et on a vu directement dans la salle plein air. Bon, là, on voit maintenant bien la salle plein air. On voit devant nous bon, le président. À gauche du président, il y a le banc du gouvernement avec une chaise un peu plus haute, c'est la chancelière. Et après, avec un ordre fixe, sont les ministres ou les secrétaires d'État. Et après, vous avez les groupes politiques. toujours vu du président. À droite, ce sont les libéraux, après les chrétiens démocrates, après les Verts, le SPD et après la gauche.
Et alors, est-ce qu'il se passe ici quelque chose le jour des élections, le jour du le 22 septembre, ici dans cette salle?
Dans la salle, non. La salle sera complètement vide, mais là où on est juste en dehors de la salle, vous ne bougez plus le soir du 22 septembre, parce que toutes les stations de télévision, de poste, ont là établi leurs caméras, tout ça, et il y a beaucoup de politiciens qui marchent. Il y a un monde fou. Vraiment, vous ne bougez presque plus là. Là, c'est archi plein.
Et dès dimanche soir, débuteront les négociations pour savoir qui va s'allier avec qui, comment seront répartis les différents ministères, mais pas dans la salle plénière du Bundestag.
On va plutôt dans d'autres bâtiments où c'est un peu plus calme, où on peut plutôt le fermer, parce qu'ici, tout est ouvert. Aujourd'hui, tous les autres bâtiments sont terminés aussi. On a beaucoup de bâtiments juste autour du Reichstag, qu'on peut arriver aussi au souterrain. C'est tout jumelé par des petits tunnels. On a vraiment des conditions de travail superbes maintenant.
Et bientôt, deux nouveaux bâtiments viendront s'ajouter à ceux déjà présents, le ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation, qui sont en train d'être construits.
Audrey Parmentier dans les couloirs du Bundestag. Un reportage à retrouver comme d'habitude sur le www.dw.de/français, tout comme le podcast de cette émission ainsi que notre page consacrée aux coulisses des législatives allemandes. Merci à Lydia Heller pour les sons sur les élections U18. Et puis n'oubliez pas que dimanche prochain, le 22 septembre, vous avez rendez-vous à 17h temps universel sur nos ondes pour une émission spéciale sur les élections. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Et tschüss.
Also, was das Schaf da mit dem Gras macht, keine Arbeit.
Ach.
Was man später mit dem Schaf macht, das ist Arbeit.
Aha.
Generell, alles, was Spaß macht, keine Arbeit.
Och.
Generell, was man im Gras macht, keine Arbeit.
Ach so, wir singen.
Ohne Arbeit wäre das Leben.
Feld bestellt hat?
Trotzdem Arbeit.
Und wenn man ein Zelt auf dieses Feld stellt?
Keine Arbeit.
Oh.
Aber wer morgen vor dem Zelt bellt, der hat Arbeit.
Ach.